Alors que c'était formellement interdit, strictly forbidden, Camille posait ses vêtements sur le linteau de sa cheminée, restait au lit le plus longtemps possible, s'habillait sous sa couette et réchauffait les boutons de son jean entre ses mains avant de l'enfiler. Le bourrelet en PVC n'avait pas l'air très efficace et elle avait dû changer son matelas de place pour ne plus sentir l'affreux courant d'air qui lui vrillait le front. Maintenant, son lit était contre la porte et c'était tout un beans pour entrer et sortir. Elle était sans cesse en train de le tirer ici ou là pour faire trois pas. Quelle misère, songeait-elle, quelle misère. Et puis ça y est, elle avait craqué, elle faisait pipi dans son lavabo en se tenant au mur pour ne pas risquer de le déceler. Quant à ses bains turcs, n'en parlons pas. Elle était donc sale. Enfin sale, peut-être pas, mais moins propre que d'habitude. Une ou deux fois par semaine, elle se rendait chez les Kessler quand elle était sûre de ne pas les trouver. Elle connaissait les horaires de leur femme de ménage et cette dernière lui tendait une grande serviette éponge en soupirant. Personne n'était dupe. Elle repartait toujours avec un petit frichti ou une couverture supplémentaire. Un jour pourtant, Mathilde avait réussi à la coincer alors qu'elle était en train de se sécher les cheveux.
Tu ne veux pas revenir vivre ici un moment? Tu pourrais reprendre ta chambre.
Non, je vous remercie. Je vous remercie tous les deux, mais ça va, je suis bien.
Tu travailles?
Camille ferma les yeux.
Oui, oui.
Tu en es où? Tu as besoin d'argent? Donne-nous quelque chose, Pierre pourrait te faire une avance, tu sais.
Non, j'ai rien terminé pour le moment.
Et toutes les toiles qui sont chez ta mère?
Je sais pas, il faudrait les trier, j'ai pas envie.
Et tes autoportraits?
Ils sont pas à vendre.
Qu'est-ce que tu fabriques exactement?
Des bricoles.
Tu es passée qu'à Voltaire?
Pas encore.
Camille?
Oui?
Tu ne veux pas éteindre ce fichu séchoir, qu'on s'entende un peu?
Je suis pressée.
Tu fais quoi exactement?
Pardon?
C'est quoi ta vie là? Ça ressemble à quoi en ce moment?
Pour ne plus jamais avoir à répondre à ce genre de questions, Camille dévala les escaliers de leur immeuble 4 à 4 et poussa la porte du premier coiffeur venu.
Rasez-moi.
Demanda-t-elle au jeune homme qui se trouvait au-dessus d'elle dans le miroir.
Pardon?
Je voudrais que vous me rasiez la tête, s'il vous plaît.
La boule à zéro?
Oui.
Ah non, je peux pas faire ça.
Si, si, vous pouvez. Prenez votre tondeuse et allez-y.
Oh non, c'est pas l'armée ici. Hein. Je veux bien vous couper très court, mais pas la boule à zéro. Hein. C'est pas le genre de la maison. Hein, Carlo?
Carlo lisait tiercer magazine derrière sa caisse.
De quoi?
La petite dame, elle veut qu'on la tonde.
L'autre esquissa un geste qui voulait dire à peu près « j'en ai rien à foutre ». Je viens de perdre 10 euros dans la 7e, alors me faites pas chier.
5 mm.
Pardon?
Je vous la fais à 5 mm, sinon vous n'oserez même plus sortir d'ici.
J'ai mon bonnet.
J'ai mes principes.
Camille lui sourit, hocha la tête en signe d'acquiescement et sentit le crissement des lames sur sa nuque. Des mèches de cheveux s'éparpillaient sur le sol, pendant qu'elle dévisageait la drôle de personne qui lui faisait face. Elle ne la reconnaissait pas, ne se souvenait plus à quoi elle ressemblait l'instant précédent. Elle s'en moquait. Désormais, ce serait beaucoup moins galère pour elle d'aller prendre une douche sur le palier, et c'était la seule chose qui comptait. Elle interpella son reflet en silence.
Alors c'était ça le programme? Se démerder, quitte à s'en les dire, quitte à se perdre de vue pour ne plus jamais rien devoir à personne. Non, sérieusement. C'était ça?
Elle passa sa main sur son crâne râpeux et eut très envie de pleurer.
Tu avais des poux?
Lui demanda Mamadou.
Camille était en train d'enfiler sa blouse. Elle n'avait pas envie de parler. Trop de cailloux, trop froid, trop fragile.
Tu fais la gueule?
Elle secoua la tête, sortit son chariot du local à poubelle et se dirigea vers les ascenseurs.
Tu montes au 5e? Et pourquoi c'est toujours toi qui fais le 5e? C'est pas normal ça. Faut pas te laisser faire. Hein. Tu veux que je lui parle à la chef? Moi je m'en fous de gueuler, hein, tu sais. Oh, mais oui, je m'en fous bien.
Non, merci. Le 5e ou un autre, pour moi, c'est pareil.
Les filles n'aiment pas cet étage parce que c'était celui des chefs et des bureaux fermés. Les autres, les open space, comme disait la brodard, étaient plus faciles et surtout plus rapides à nettoyer. Il suffisait de vider les poubelles, d'aligner les fauteuils contre les murs et de passer un grand coup d'aspirateur. On pouvait même y aller gaiement et se permettre de cogner dans les pieds des meubles parce que c'était de la camelote et que tout le monde s'en fichait. Au 5e, Chaque pièce exigeait tout un cérémonial assez fastidieux. Vider les poubelles, les cendriers, purger les déchiqueteuses à papier, nettoyer les bureaux avec la consigne de ne toucher à rien, de ne pas déplacer le moindre trombone, et se taper, en plus, les petits salons attenants et les bureaux des secrétaires. Ces garces qui collaient des post-it partout, comme si elles s'adressaient à leur propre femme de ménage, elles qui n'étaient même pas foutues de s'en payer une à la maison. Et vous me ferez ci, et vous me ferez ça, et la dernière fois, vous avez bougé cette lampe, et cassé ce truc, et gna gna gna, le genre de réflexion sans intérêt qui avait le don d'irriter Karine ou Samia au plus haut point, mais qui laissait Camille totalement indifférente. Quand un mot était trop sec, elle écrivait en dessous « moi pas comprendre le français » et le recollait bien au milieu de l'écran. Aux étages inférieurs, les cols blancs rangeaient à peu près leur bordel, mais ici, c'était plus chic de tout laisser en plan. Histoire de montrer qu'on était débordé, que l'on était parti à contre-cœur sans doute, mais que l'on pouvait revenir à n'importe quel moment reprendre sa place, son poste et ses responsabilités au grand gouvernail de ce monde. Bon, pourquoi pas, soupirait Camille. Admettant, à chacun ses chimères. Mais il y en avait un là-bas, tout au bout du couloir sur la gauche, qui commençait à les lui briser menu. Grand pont ou pas, ce mec-là était un goré et ça commençait à bien faire. En plus d'être crade, son bureau puait le mépris. 10 fois, 100 fois peut-être, elle avait vidé et jeté d'innombrables gobelets où flottaient toujours quelques mégots et récupéré des morceaux de sandwich rassis sans même y songer. Mais ce soir, non. Ce soir, elle n'avait pas envie. Elle rassembla donc tous les déchets de ce type, ses vieux patchs pleins de poils, ses miasmes, ses chewing-gums collés sur le rebord de son cendrier, ses allumettes et ses boulettes de papier, enfit un petit tas sur son beau sous-main en peau de zébu et laissa une note à son attention. « Monsieur, vous êtes un porc et je vous prie désormais de laisser cet endroit aussi propre que possible. P.S. Regardez à vos pieds, il y a cette chose si commode qu'on appelle une poubelle. » Elle agrémenta sa tirade d'un méchant dessin où l'on apercevait un petit cochon en costume 3 pièces qui se penchait pour voir quelle étrangeté se cachait donc sous son bureau. Elle alla ensuite retrouver ses collègues pour les aider à finir le hall.
Je le sais bien. Mais pourquoi vous dramatisez tout comme ça? C'est n'importe quoi à la fin.
Écoute, mon petit Franck, premièrement, tu vas me parler sur un autre ton. Et deuxièmement, tu es mal placé pour me faire la leçon. Moi, ça fait presque 12 ans que je m'en occupe. Que je passe la voir plusieurs fois par semaine, que je l'emmène en ville et que je prends soin d'elle. Plus de 12 ans, tu m'entends? Et jusque-là, on ne peut pas dire que tu t'en sois trop mêlé. Jamais un remerciement, jamais un signe de reconnaissance, jamais rien. Mais l'autre fois, quand je l'ai accompagnée à l'hôpital et que je suis venue la voir tous les jours au début, ça t'aurait pas effleuré de me passer un petit coup de téléphone et m'envoyer une fleur, hein? Bon, bah ça tombe bien parce que c'est pas pour toi que je le fais, c'est pour elle. Parce que c'est quelqu'un de bien, ta grand-mère. De bien, tu comprends? Je te blâme pas, mon petit gars, t'es jeune, t'habites loin et t'as ta vie. Mais quelquefois, tu sais, ça me pèse tout ça. Ça me pèse. Moi aussi, j'ai ma famille, mes soucis et mes petits ennuis de santé. Alors, je te le dis tout net, tu dois prendre tes responsabilités maintenant.
Vous voulez que je lui bousille sa vie et que je la mette en fourrière juste parce qu'elle a oublié une casserole sur le feu? C'est ça?
Oh, voyons, tu parles d'elle comme si c'était un chien.
Non, c'est pas d'elle que je parle. Et vous savez très bien de quoi je parle. Vous savez très bien que si je la mets dans un mouroir, elle va pas tenir le choc. Merde, vous avez bien vu la comédie qu'elle nous a fait la dernière fois.
Oui, bah t'es pas obligé d'être grossier, tu sais.
Excusez-moi, madame Carmino, excusez-moi. Mais je sais plus où j'en suis. Je peux pas lui faire ça, vous comprenez? Pour moi, ce serait comme de la tuer.
Mais si elle reste toute seule, c'est elle qui va se tuer.
Et alors? Est-ce que ce serait pas mieux?
Ça, c'est ta façon d'envisager les choses. Mais moi, je ne marche pas dans cette combine. Si le facteur n'était pas arrivé au bon moment l'autre jour, c'est toute la maison qui brûlait. Et le problème, c'est qu'il ne sera pas toujours là, le facteur. Et moi non plus, Franck. Moi non plus. C'est devenu trop lourd, tout ça. C'est trop de responsabilités. À chaque fois que j'arrive chez vous, je me demande ce que je vais trouver. Et les jours où je passe pas, j'arrive pas à m'endormir. Quand je lui téléphone et qu'elle ne répond pas, ça me rend malade. Et je finis toujours par y aller pour voir un peu de ses égarements. Oh, son accident l'a détraquée. C'est plus la même femme aujourd'hui. Elle traîne en robe de chambre toute la journée, ne mange plus, ne parle plus, ne lit plus son courrier. Oh, pas plus tard qu'hier. Je l'ai encore retrouvée en combinaison dans le jardin. Elle était complètement frigorifiée, la pauvre. Oh non, je ne vis plus. Je suis toujours en train de m'imaginer le pire. On peut pas la laisser comme ça, on peut pas. Tu dois faire quelque chose. Oh, Franck. Allô, Franck, t'es là?
Ouais.
Il faut se faire une raison, mon petit.
Non. Je vais bien la foutre à l'hospice puisque j'ai pas le choix. Mais il faut pas me demander de me faire une raison. Ça, c'est pas possible.
Oh, fourrière, mouroir, hospice. Pourquoi tu dis pas maison de retraite, tout simplement?
Parce que je sais bien comment ça va se finir.
Il n'était que 15 heures, mais il sut qu'il ne pourrait pas dormir. Il était épuisé. Il frappa la table, il frappa le mur, il cogna dans tout ce qui était à sa portée. Il se mit en tenue pour aller courir et s'effondra sur le premier banc venu. Ce ne fut qu'un petit gémissement d'abord, comme si quelqu'un venait de le pincer. Puis tout son corps le lâcha. Il se mit à trembler de la tête aux pieds, sa poitrine s'ouvrit en deux et libéra un énorme sanglot. Il ne voulait pas, putain. Mais il n'était plus capable de se contrôler. Il pleura comme un gros bébé, comme un pauvre naze, comme un mec qui s'apprêtait à dézinguer la seule personne au monde qu'il n'avait jamais aimée. Il était plié en deux, laminé par le chagrin et tout barbouillé de morve. Quand il admit enfin qu'il n'y avait rien à faire pour arrêter ça, il enroula son pull autour de sa tête et croisa les bras. Il avait mal, il avait froid, il avait honte. Il resta sous la douche, les yeux fermés et le visage tendu, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau chaude. Il se coupa en se rasant, parce qu'il n'avait pas le courage de rester devant la glace. Il ne voulait pas y penser. Pas maintenant. Plus maintenant. Les digues étaient fragiles, et s'il se laissait aller, des milliers d'images viendraient lui ravager la tête. Sa mémé, il ne l'avait jamais vue autre part que dans cette maison. Au jardin, le matin, dans sa cuisine, le reste du temps est assise auprès de son lit le soir. Quand il était enfant, il souffrait d'insomnie. Cauchemardait, hurlait, l'appelait et lui soutenait que lorsqu'elle fermait la porte, ses jambes partaient dans un trou et qu'il devait s'accrocher aux barreaux du lit pour ne pas les suivre. Toutes les institutrices lui avaient suggéré de consulter un psychologue. Les voisines hochaient la tête gravement et lui conseillaient plutôt de le mener au rebouteux pour qu'il lui remette les nerfs en place. Quant à son mari, lui, il voulait l'empêcher de monter. « C'est toi qui nous le gâte, » il disait. « C'est toi qui le détraque, ce gamin. Bon sang, t'as qu'à moins l'aimer aussi. T'as qu'à le laisser chialer un moment, d'abord il pissera moins, et tu verras qu'il s'endormira quand même. » Elle disait oui gentiment à tout le monde, mais n'écoutait personne. Elle lui préparait un verre de lait chaud, sucré, avec un peu d'eau de fleur d'oranger, lui soutenait la tête pendant qu'il buvait, et s'asseyait sur une chaise. Là, tu vois, juste à côté. Elle croisait les bras, soupirait et s'assoupissait avec lui. Avant lui, souvent. Ce n'était pas grave. Tant qu'elle était là, ça allait.